Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le 96e podcast d'Interstice. Pendant longtemps, les sciences sont restées cloisonnées les unes des autres. Les mathématiciens d'un côté, les biologistes de l'autre, concentrés sur leur propre discipline et enfermés dans leur propre paradigme. Mais dans certains cas, il peut être nécessaire de travailler de façon transverse, de façon transdisciplinaire. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sébastien Benzekri. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef d'équipe de la toute jeune équipe COMPO, qui est hébergée au sein du Centre de recherche contre le cancer de Marseille. Une équipe commune INRIA et INSERM, et une équipe un peu particulière, puisqu'elle comprend des médecins, des pharmacologues, des mathématiciens. Alors Sébastien Benzekri, pourquoi avoir monté une équipe de recherche transdisciplinaire ?
C'était un vieux rêve depuis longtemps, depuis en fait mon passage aux États-Unis lors de mon post-doctorat à Boston, où j'étais donc dans une équipe de recherche sur le cancer, et au sein de laquelle il y avait donc cette multidisciplinarité, avec même encore plus large, parce qu'il y avait même des physiciens, des informaticiens, des mathématiciens, des biologistes et des médecins, centrés donc sur la biologie et la médecine du cancer. Et ça avait été une expérience extrêmement enrichissante d'avoir toutes ces personnes dans la même équipe, et ça m'avait permis d'apprendre énormément sur la biologie du cancer. Et quand j'étais retourné en France, donc j'avais intégré une équipe donc de modélisation en cancérologie à l'INRIA, mais qui était composée essentiellement de mathématiciens, et j'avais toujours gardé la volonté d'être au plus proche de la recherche en cancérologie, et donc plutôt intégré dans un centre de recherche en cancérologie. Et puis, encore plus précisément, et c'est le cas de COMPO et c'est vraiment notre focus, d'être au plus proche de la médecine et des patients, et des problématiques, des préoccupations des médecins pour améliorer les soins.
Mais pourtant, vous avez une culture très différente avec les autres chercheurs de cette équipe. Comment elle se passe, la collaboration entre chercheurs de différentes sciences ?
La collaboration se passe de manière plutôt fluide. On a certes des backgrounds qui sont différents, mais bon, il faut voir que sur le site marseillais, on a la grande chance d'avoir un historique ancien qui remonte aux années 80 de collaboration et d'intégration de la modélisation mathématique pour la pharmacologie et la médecine, ce qui fait qu'on a déjà cette culture commune qui est présente, puis bon, les collaborations entre l'équipe de pharmacologie, surtout dirigée, elle, par le professeur Joseph Ciccolini, et moi-même, ne date pas d'hier, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille, qu'on collabore activement, on a à peu près une vingtaine de publications communes, donc on a déjà établi des manières de travailler ensemble. Néanmoins, il reste encore des difficultés dans le dialogue, dans la communication, et encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile de bien transcrire les attentes des médecins, de bien les comprendre, et puis surtout de bien leur faire comprendre qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire avec les modèles.
Alors justement, à quelle étape de la recherche contre le cancer ils interviennent, les modèles de l'équipe COMPO ?
Alors nous, notre focus, c'est vraiment la recherche clinique, donc la recherche en cancérologie clinique. Donc le but, c'est de développer des modèles pour deux utilités finales majeures qui sont l'amélioration et l'aide au design des essais cliniques. Et l'autre but, c'est pour faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire pour déterminer pour un patient donné quel médicament donner, à quelle dose, avec quel schéma d'administration.
Et comment est-ce qu'on modélise ça ?
Alors du coup, pour modéliser ça, il faut modéliser plusieurs aspects de la maladie et de la thérapie. D'une part, la maladie, ça rejoint des connexions avec la modélisation en biologie du cancer. Et d'autre part, modélisation de la thérapie, ça recouvre plusieurs choses. Quand on parle d'oncologie clinique, la majeure partie à laquelle on pense, c'est les thérapies médicamenteuses. Et c'est là le lien extrêmement fort avec la pharmacologie. Il faut modéliser le devenir du médicament dans le corps. Et ça, c'est le rôle de ce qui s'appelle la pharmacocinétique. Et puis, modéliser aussi l'effet du médicament sur la maladie. C'est ce qui s'appelle la pharmacodynamie. Encore une fois, deux axes, efficacité, toxicité. Comment est-ce que le médicament permet de réduire la masse cancéreuse, de contenir le développement de la maladie, mais surtout, et c'est un point essentiel, c'est surtout de garantir que le médicament n'est pas toxique, ou du moins pas trop toxique pour le patient. On sait tous très bien que les chimiothérapies sont d'une toxicité effroyable, et donc il faut absolument contrôler les toxicités, notamment sur les globules blancs. Donc à partir de mesures, on a accès donc à des données sur l'impact du médicament qui permettent de prédire comment adapter la dose pour contrôler la toxicité tout en essayant de maximiser l'efficacité.
Donc à terme, avec les modèles de compo, on pourra modéliser l'évolution de la maladie chez une personne et l'évolution du traitement chez la même personne pour pouvoir choisir le bon traitement au bon moment et dans les bonnes proportions.
Globalement, c'est ça. Et donc, il y a une partie là que vous avez évoquée mais que je n'ai pas expliquée, c'est choisir le bon traitement. Là, c'est une activité plus un axe de recherche un peu plus récent par rapport à nos activités historiques, où donc on modélise les données disponibles sur les patients afin de prédire si le patient X va répondre à la drogue A. Et je rajoute un point, c'est que donc pour l'instant, on a parlé de médicaments, mais évidemment, la thérapie contre le cancer n'est pas uniquement composée d'actions systémiques médicamenteuses. Il y a aussi, la première arme, c'est la chirurgie, et puis la radiothérapie. On travaille activement sur, par exemple, comment combiner la radiothérapie avec l'immunothérapie, quelle séquence entre l'administration de ces deux traitements. Voilà, donc la radiothérapie et puis donc les thérapies médicamenteuses.
Mais à terme, est-ce que ce n'est pas des outils qui vont venir remplacer le rôle du médecin dans le choix du traitement et dans l'accompagnement au fil du temps de la maladie ?
Oula, non, on est extrêmement loin de ça. Si vous voulez, nous, nos outils, c'est vraiment des outils qui viennent comme des outils d'aide à la décision pour les médecins ou pour les pharmaciens. D'ailleurs, l'adaptation de posologie basée sur la modélisation pharmacocinétique, c'est quelque chose qui maintenant existe en routine par les pharmaciens de notre équipe, pas pour toutes les molécules, mais pour certaines molécules, mais ça remplace pas le pharmacien. C'est-à-dire que c'est toujours le pharmacien quand même qui contrôle, il utilise le logiciel comme prédiction de qu'est-ce qui va se passer, mais il reste qu'il y a une variabilité énorme et ça reste quand même à son jugement, à son appréciation, qui est composée de cette prévision-là donnée par la simulation, mais aussi de tout un tas d'autres facteurs. Et dans la décision médicale, je ne veux pas parler à la place des médecins, mais je pense qu'ils vous confirmeraient qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, on ne peut pas remplacer... Enfin, il y a trop de choses qui sont non quantifiables, non quantifiées, et qui ne sont pas du tout remplaçables par un modèle mathématique comme ça. Donc, on en est loin.
Alors, une question que je pose beaucoup, est-ce que ça marche finalement ? Est-ce qu'on arrive à prédire avec un bon taux de réussite les rémissions ou pas et l'évolution de la maladie ?
C'est une réponse que je ne fais pas beaucoup, mais là, on a des résultats plutôt encourageants. On est vraiment très content de résultats qu'on a dernièrement donc, sur cette approche-là, sur ces projets-là, où on arrive, si vous voulez, à dépasser l'état de l'art par rapport aux capacités de prédiction. Globalement, l'état de l'art avec des données statiques, c'est 74% de précision. Nous, on va au-delà de 80% avec nos modèles. Et l'AUC, même pour prédire la survie à 1 an dans le cancer du poumon, elle est même à 90,09 pour l'instant dans nos meilleurs modèles. Moi, j'ai souvent tendance à dire que quand on fait de la recherche 99 fois sur 100, ça marche pas. Parce que sinon, en fait, ce serait pas de la recherche. On est assez content parce que ça marche plutôt pas mal. Ça reste à revalider, mais on a quand même une base de données assez grande pour tester ces approches.
Sébastien Benzekri, vous parlez donc de résultats assez intéressants. Une fois que vous avez ces résultats, quelle est la prochaine étape ?
Alors, la prochaine étape, c'est en fait un très gros projet qu'on a dans l'équipe qui s'appelle Quantique, qui consiste à modéliser des données qui sont récoltées dans un RHU, projet de recherche hospitalo-universitaire qui s'appelle Pionnier, qui collecte sur 450 patients beaucoup de données très riches, à la fois donc pré-traitement et pendant le traitement. Et donc, ces données sont beaucoup plus riches que ce qu'on avait avant. Et donc, le nouveau challenge, c'est d'être capable de modéliser ces données qui sont complexes. Tout ça, encore une fois, pour, in fine, prédire la réponse à l'immunothérapie.
Mais derrière cette question se pose aussi la question de la gestion des données et de l'éthique de la gestion de ces données.
Oui, tout à fait. Grosse question, énorme question. Comment dire, il n'y a pas encore de processus qui sont mis en place et qui sont standardisés, mais c'est en cours. Par exemple, il y a une initiative au sein d'INRIA pour devenir hébergeur des données de santé. Les juristes, les différents personnels administratifs se forment de plus en plus aux contraintes, notamment liées au RGPD. Donc toute la problématique, c'est de travailler sur les données en respectant évidemment la vie privée des personnes et des patients, en assurant un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données, mais aussi en permettant que les procédures ne soient pas lourdes au point qu'elles en deviennent bloquantes et qu'elles empêchent la recherche de se faire.
Sébastien Benzekri, j'aimerais revenir un petit peu aussi sur le quotidien de la recherche, parce que vous n'êtes pas que chercheur, je l'ai dit, vous êtes chef d'équipe de la toute jeune équipe Compo. En quoi ça consiste de diriger une équipe de recherche ?
Oui, alors je reviens là-dessus, je tiens à préciser, donc au quotidien, je co-dirige l'équipe avec Joseph Ciccolini, donc qui s'occupe plus de la partie pharmacologie et pharmacologie expérimentale. Donc, en quoi ça consiste le quotidien de responsable d'équipe ? Alors, il y a quelque chose qui nous prend énormément de temps, c'est vraiment une charge juridique et bureaucratique sur l'organisation des projets et la mise en place des projets. C'est-à-dire qu'entre le moment où on imagine le projet, entre ce moment-là et le moment où enfin on arrive à avoir accès aux données et tout est fait dans un cadre avec des contrats pour l'argent qui a pu être débloqué, les personnes non permanentes qui ont pu être embauchées, il se passe un temps infini. C'est vraiment éreintant de devoir toujours relancer les aspects.
Et du coup, le travail de chef d'équipe, c'est juste un travail administratif, finalement ?
Non, alors évidemment, non. C'est pas du tout juste un travail administratif. Il y a un travail d'organisation du travail en équipe. C'est pas que pour les responsables d'équipe, hein. Chaque chercheur fait ça pour ses projets. Mais au niveau du responsable d'équipe, bah, il faut aussi organiser entre chercheurs les discussions stratégiques, mettre en place le programme scientifique. Hein. Ça a été un gros travail sur l'année dernière, de réfléchir de manière la plus collégiale possible à notre projet scientifique, établir, écrire ce projet scientifique, porter ce projet scientifique devant les institutions. Donc voilà, donc il faut faire tout. Toutes ces choses-là.
Au final, par cette équipe Compo, on a un vrai rapprochement entre l'univers des sciences du numérique et l'univers de la santé.
Oui, voilà. Donc, Compo, en fait, c'est une équipe qui a été créée suite à un appel à manifestation d'intérêt INRIA-INSERM. Donc, on a de nombreuses tutelles. INRIA et le centre INRIA Sophia Antipolis. Et on est une équipe donc, du CRCM, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille. Et de ce fait-là, nous sommes sous tutelle de l'INSERM, mais aussi du CNRS, de l'IPC et de l'université, Aix-Marseille Université, qui sont donc tous les partenaires institutionnels qui nous accompagnent. Et je me réjouis beaucoup de cette volonté commune d'avoir proposé ces appels à manifestation d'intérêt pour créer des équipes communes, parce que je pense que le fait d'avoir des équipes avec les deux mondes permettra de donner des vraies avancées en santé numérique, qui est un domaine fondamental au XXIe siècle. Et je voudrais donc remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe Compo, et particulièrement tous les jeunes étudiants, doctorants, ingénieurs, post-docs, qui travaillent d'arrache-pied et qui sont hyper motivés pour avancer dans nos recherches et développer tous les travaux.
Et c'est sur cette bonne nouvelle que s'achève donc ce 96e podcast d'Interstice. Merci beaucoup Sébastien Benzekri d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, merci beaucoup à vous et merci à tous les auditeurs.
Et à bientôt sur Interstice.
Au revoir, à bientôt.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.